Bonsoir à tous, 100% rugby le lundi, c'est débrief jusqu'à 19h, vous en avez l'habitude de 100% rugby, ça s'écoute aussi en podcast sur le site internet de France Bleu Pays Basque, les applications ici ou Radio France, n'hésitez pas à partager l'émission, laissez vos avis, on essaie de les lire un maximum et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner comme ça dès qu'un nouveau podcast, une nouvelle émission sort, vous êtes avertis. Une action, une incompréhension et une colère au bout, l'aviron bâillonnais battu dans les arrêts de jeu au stade français 28-24 depuis 48h ce matin. Match a fait couler beaucoup d'encre dans le monde de l'Ovalie. Pour y revenir, on reçoit le président de l'Aviron Bayonnais, invité de 100% rugby. Bonsoir Philippe Taïeb.
Bonsoir.
Et merci d'être avec nous sur France Bleu Pays Basque. On va revenir sur ce match, cette polémique. Vous nous livrerez votre vision des choses. Et puis on se projettera évidemment sur la réception de Bordeaux-Bègles ce samedi à Jean Daugé. On prend le temps ce soir dans 100% rugby avec autour de la table notamment Grégoire Lascubé. Salut Grégoire.
Bonsoir à vous.
Et Eric Balader qui devrait pas tarder. En deuxième partie, une longue page sera consacrée au Biarritz Olympique. France Bleu Pays Basque vous donne les derniers détails concernant la cession du club, le processus dans lequel sont engagées les deux équipes, l'équipe dirigeante laissée Jean-Baptiste Aldiger, puis le trio de Philippe Van der Merve, de Marc Bagé et de Sean Négartier. Puis on débriefera notamment la lourde défaite contre Grenoble 46-19. 100% rugby, c'est jusqu'à 19h, vous avez le programme, c'est parti.
100% rugby sur France Bleu Pays Basque, Stéphane Garcia.
Avec Philippe Taïeb, le président de l'Aviron Bayonnais. Philippe Taïeb, est-ce que 48 heures après ce match, la colère est redescendue?
D'abord, la colère, c'est un bien grand mot. Voilà, on n'a pas été, présent sur cette seconde mi-temps qui nous coûte sûrement cette victoire. Bien entendu qu'il y a cette décision arbitrale qui est difficile à digérer, surtout après tout ce qui s'est passé. Moi j'ai eu les versions du corps arbitral parce que je les ai rencontrés après le match et c'est vrai qu'après avoir visualisé avec eux sur mon téléphone l'image, les trois personnes qui étaient autour de moi ont reconnu la faute, mais tout le monde un peu s'est déchargé sur le diffuseur. J'ai eu des discussions aussi avec Eric Bail à ce sujet. Et, bon, c'est difficile aujourd'hui.
Eric Bail, le patron des sports, effectivement, à Canal+.
Oui, qui a été très clair hier soir pendant le match de l'UBB, en expliquant exactement les moyens qui étaient mis à disposition des arbitres. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se sent un petit peu victime de ce qui s'est passé, surtout que les conséquences sont très grave. Alors oui, on peut revenir sur le fait qu'on n'a pas tenu notre seconde mi-temps, qu'on n'a pas été capable de faire trois petits tas pour garder ce score. Je suis d'accord, ça c'est une réalité. Mais la vraie réalité, c'est les conséquences de cette décision arbitrale. Et là, je ne comprends pas qu'aujourd'hui, on puisse pas déjà avoir des recours, parce qu'on doit avoir la possibilité. Et à un moment, il va falloir que tous les présidents soient capables aussi de dire arrêtons, parce que je sais qu'il y a beaucoup de présidents et de managers qui sont insatisfaits des décisions arbitrales. Et la faute est humaine et il faut aussi l'accepter. Par contre, on doit nous donner, nous aussi, les moyens de pouvoir nous exprimer et peut-être de donner la parole à notre capitaine deux fois pendant le match pour dire je veux avoir l'image qui correspond aux fautes qu'on voit, quoi.
On parle de faute. La faute de qui? L'arbitre central, l'arbitre vidéo, le réalisateur, Canal+?
Vous savez, chacun prêche pour sa paroisse, mais bon, moi j'essaie d'écouter les différentes versions. Ce que je sais, c'est que, et de ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, l'arbitre vidéo a dit non à l'arbitre central en disant il n'y a rien. Peut-être qu'il aurait dû demander ou visualiser l'image avant de se prononcer et surtout d'être impartial dans sa décision, ce qui n'a pas été le cas. La preuve, c'est que après avoir visionné les images, on s'aperçoit qu'il y a une faute qui nous coûte la victoire, mais ce n'est pas que cette faute-là qui coûte la victoire à l'Aviron Bayonnais, c'est aussi peut-être ce manque de gestion et de sang-froid sur les dernières secondes du match. À partir de là, oui, il y a quand même une frustration. J'espère qu'elle nous servira pour le week-end prochain, mais néanmoins, ces trois points de moins dans le classement qui est quand même, pour nous, peuvent avoir des conséquences à la fin de la saison.
Grégoire.
Disons que moi je dirais à la question que tu viens de poser, c'est de la façon dont l'arbitre central révèle à l'arbitre vidéo, est-ce qu'il y a une faute, est-ce que tu vois une... Non, il doit lui demander la vidéo, il doit lui demander, voilà, je veux qu'on recadre tout ça, il doit faire ce geste,
le fameux geste de la vidéo,
voilà,
que tu mimes.
Et là-dessus, il serait revenu dans le détail, il y a le ralenti, tout ça, il lui pose la question, est-ce qu'il y a une faute, l'arbitre... Vidéo lui dit non. Bon. Mais il doit lui exiger, c'est l'arbitre central qui est le patron, il doit lui exiger de revoir la vidéo, et il ne fait pas cette demande-là.
Tu parles de Pierre-Baptiste Nuchy, l'arbitre, oui, qui s'est expliqué auprès du Midi Olympique, pour que ce soit clair pour tout le monde, on parle là, on va resituer, parce qu'on ne sait jamais, si vous n'avez pas vu le match, d'un déblayage illicite sur le côté de Giovanni Abel-Köfner, sur Thomas Seyte, qui n'était pas porteur de ballon, qui était au soutien du porteur de balle, et c'est sur cette phase de jeu-là que derrière, effectivement, le Stade français, via Sekou Makalou, récupère le ballon. Juste, je permets, Grégoire, avant de te donner la parole, Pierre-Baptiste Nuchy auprès du Midi Olympique, pour que les auditeurs l'aient en tête, il indique donc que sur l'instant, il n'a pas été éveillé, alerté par l'un de ses assesseurs sur ce jeu déloyal, qu'il n'a pas appelé la vidéo parce qu'aucun de ses assesseurs n'était en éveil par rapport à une faute éventuelle, qu'aucun élément ne nous faisait appeler la vidéo. Il explique aussi que Camille Lopez et donc Thomas Seyte sont venus pour essayer de lui faire pression, mais que l'image n'est pas repassée en direct pendant la transformation sur les écrans du stade de Jean Bouin, et que donc, comme il ne voulait pas subir la pression des joueurs, il n'a pas demandé d'image. Il regrette d'ailleurs de ne pas avoir eu les images sur le stade, comme ça avait été le cas notamment sur l'essai invalidé à Chertibéria en première période. Et donc il dit qu'il a parlé à l'arbitre vidéo, à Cédric Marchat, et lui dit, il m'a répondu que non, et n'avoir aucun ralenti à sa disposition. Voilà la vision de Pierre-Baptiste Nuchy, pour que ce soit clair pour tout le monde.
Ce qui fait bien, c'est écouter Camille Lopez qui lui dit de revenir sur l'action, parce qu'il y a sûrement une faute. Suite à ça, il pose une question à l'arbitre vidéo. Mais il ne doit pas lui poser la question s'il y a faute ou pas. C'est à lui de demander la vidéo. On la visionne ensemble. Et suite à ça, il serait revenu sur cette action. C'est lui le patron. Maintenant, c'est problème d'enregistrement, c'est problème de l'arbitre vidéo. Non, c'est vrai qu'il lui a posé la question. Mais c'est à lui d'exiger la vidéo différemment.
Beaucoup vont dire quand même, Philippe Taïeb, est-ce que c'est pas trop simple de rejeter la faute sur l'arbitre quand on est l'aviron bâillonné, quand on fait la première période, qu'on fait peut-être la meilleure de la saison chez le leader, le Stade français quand même 24-7, derrière de ne pas réussir à faire 3 tas 30 secondes avant, 17 secondes avant même la sirène, quand on n'y arrive pas non plus à marquer un seul point en seconde période, est-ce que c'est pas trop simple de rejeter la faute sur l'arbitre?
Non, mais notre part de responsabilité, elle existe aujourd'hui. C'est inadmissible qu'on fasse une seconde mi-temps de ce niveau-là, c'est inadmissible, mais bon, il n'y a que ceux qui n'ont pas joué au rugby qui peuvent porter des jugements, parce qu'ils doivent savoir ce qu'est le rugby. Par contre, moi je défends mes joueurs, mon staff, sur cette prestation. Peut-être qu'on s'est vu gagner le match, mais effectivement, sur la seconde mi-temps, on n'a pas existé. Néanmoins, il y a cette faute qui existe et on ne va pas se retrancher derrière cette faute, mais elle est là et on doit la traiter. C'est pas la forme qu'on doit traiter, c'est le fond. Maintenant, il faut qu'on arrive à traiter le fond, et on doit donner aussi des moyens à notre staff ou à notre capitaine sur le terrain de pouvoir exprimer à un moment le fait de demander une situation litigieuse. Et c'est pas que le corps arbitral, c'est tout le monde du rugby qui doit aujourd'hui ouvrir les yeux en disant, mais messieurs, nous avons de la frustration régulièrement tous les week-ends. J'ai vu Hugues Mola aussi qui a parlé de l'arbitrage. Il faut un moment qu'il y ait un équilibre, et c'est pas que l'arbitre qui doit décider. Ou alors, ce compte-là, on arrête tous les vidéos, on fait comme avant, et on met plus de doute dans les supporters ou dans les partenaires ou dans le staff. On ne met plus de vidéos et on arbitre, je veux dire, à la bonne volonté, à la bonne foi des arbitres. Donc, il faut aussi que les parties prenantes de ce rugby se réunissent et trouvent des solutions qui mettent le minimum, je veux dire, de risques sur la table.
Le fond, les moyens sur l'arbitrage et d'éventuels recours potentiels, on continue à évoquer tout ça avec Philippe Taïeb, le président de l'Aviron Bayonnais, dans 100% Rugby.
Toute l'actu du rugby au Pays Basque est dans 100% Rugby sur France Bleu.
Il ne faut pas qu'elle soit lourde de conséquences à la fin de la saison.
Et on parlait de la faute justement avec Philippe Taïeb, le président de l'Aviron Bayonnais dans 100% Rugby. On évoquait cette faute, cette erreur d'arbitrage, chacun qualifiera ça comme il veut. Toujours est-il qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des recours qui sont possibles pour l'Aviron Bayonnais ?
Ben, des recours, oui, parce que au moins exprimer notre mécontentement et écrire et dire qu'on n'est pas content de ce qui s'est passé. Mais je le répète, il faut que ce soit traité sur le fond. Je regarde beaucoup de matchs pendant le week-end et je vois beaucoup d'énervement. On crée de l'énervement, on crée de la tension, on crée de la défiance et de la méfiance envers le corps arbitral, qui sont des gens qui sont là pour bien faire et j'ai pas de souci avec eux. Par contre, il faut aussi qu'ils aient une forme de pression, comme nous avons la pression en tant que président, en tant que joueur, en tant que staff. Il faut qu'eux aussi aient la pression de leurs résultats, de leurs prestations. Sinon, ça va que dans un sens. Et ce sens-là ne pourra évoluer que si on se met autour de la table et qu'on fasse évoluer les décisions arbitrales, ou alors, je le répète, on arrête les vidéos et on arbitre comme on a arbitré il y a 20 ans.
Mais très concrètement, ça veut dire quoi sur les possibilités, sur les outils dont pourrait bénéficier un arbitre? Est-ce que, comme l'évoque Pierre-Baptiste Nucci, il faudrait, comme ça se fait dans les sports américains ou au tennis, un captain challenge, c'est-à-dire que le capitaine demande à droit à solliciter l'arbitre pour une vérification vidéo?
Mais ça, c'est une des solutions. Moi, j'ai suite à cette soirée, il y avait un autre arbitre qui était dans une salle isolée et qui m'a dit « Je n'aurais pas accepté l'essai parce qu'ils étaient en train de tester un nouveau logiciel qui va permettre au corps arbitral de pouvoir avoir des décisions plus rapides avec des replays de ce qu'il m'a expliqué rapidement. Donc, ils ne pouvaient pas s'exprimer parce que c'était une phase de test. Mais bien entendu qu'on doit donner un moment la parole ou peut-être des décisions de discussion.
Grégoire, on fait comment ? Ce truc-là du capitaine qui pourrait solliciter l'arbitre, toi, ça te dit ?
Il y a une chose qui me dérange un peu. Des fois, les arbitres n'entendent pas ou ne veulent pas entendre les joueurs pensant que ça peut poser problème pour la suite du match. Bon, je l'entends. Si c'est bien fait et que c'est le capitaine qui vient demander à l'arbitre voilà, est-ce qu'on peut révisionner ou qu'il y ait un échange avec le capitaine, moi, je suis pour ça. Après, par contre, on voit au niveau des joueurs, au niveau des staffs, quand il y a des prises de parole, et ci et ça, il y a des sanctions. Bon, je vais peut-être aller un peu loin. Pourquoi les arbitres, à un moment, s'ils vont à la faute, pourquoi
ils auraient... Ils sont notés quand même, les arbitres.
Mais d'accord, mais ils sont notés, mais ça donne quoi au bout? Ça donne pas grand-chose.
Des relégations, des maintiens dans l'élite, des...
J'en ai pas vu beaucoup, moi, qui étaient rétrogradés suite à des décisions un peu...
C'est-à-dire que le niveau du rugby français au niveau de l'arbitrage n'est pas dans ce qu'il a pu connaître il y a quelques années.
Oui, aussi. Mais bon, c'est bien beau de reconnaître. Mais il a reconnu qu'il avait fait une faute, mais il n'a pas mis les éléments qu'il avait en possession, parce que tout le monde a parlé de cette fameuse vidéo qui allait arriver. Et maintenant qu'elle est là, on s'en sert pas à bon escient. Alors reconnaître certaines choses, puis c'est pas la première fois. Il y a d'autres matchs où ça se passe comme ça. Bon, on va pas remettre le couteau dans la plaie pour le match Pau-Bayonne. Il y a eu quand même. Servons-nous des outils qu'on a demandés. Et c'est pas toujours le cas.
Voilà. Je me fais l'avocat du diable, mais Philippe Taïeb, on ne dit pas souvent que les décisions arbitrales sur l'ensemble d'une saison, elles finissent par s'équilibrer?
Oui, elles s'équilibrent, bien entendu. Après, vous savez, si ce match avait été, je ne sais pas moi, le match du barrage ou le match de la descente, vous imaginez la gravité de la décision. Aujourd'hui, on n'en est pas encore là, et j'espère, mais si demain, cette importance de décision était sur une décision d'une descente, c'est grave, c'est gravissime. Voilà. Donc là, maintenant, je crois qu'on doit travailler le fond et je crois qu'il faut aussi être indulgent envers les arbitres parce que c'est des gens passionnés, c'est des gens qui ont aussi, envie de bien faire, mais des fois, bon, ben, peut-être qu'ils n'ont pas tous les moyens ou peut-être qu'ils n'en ont pas assez. Donc il faut aller jusqu'au bout et travailler le fond pour que tout le monde grandisse et qu'on fasse. Parce qu'il y a trop de mécontentement autour de l'arbitrage et ça crée de la tension avec les supporters, avec le public et ça il faut arrêter ça parce que on ne doit pas être comme d'autres sports. On est un sport aujourd'hui, un beau sport, on doit le maintenir, mais attention à cause de ce type de décision d'avoir une tension qui se crée et une défiance entre le public et le corps arbitral.
Mais pourtant, on pourrait se dire, j'essaie de me faire l'avocat d'une caste, mais de l'arbitrage. Mais est-ce que il faudrait pas juste accepter que l'erreur est humaine et que dans ce cas-là, c'est un humain qui a fait l'erreur. Et même s'il y a des enjeux, c'est humain de faire des fautes comme
donc,
des joueurs.
Donc, si l'erreur est humaine, il faut sortir la vidéo.
D'accord. C'est le principe même de faire de l'entre-deux.
Mais c'est tout. Il faut sortir la vidéo. Donc sinon, vous devez mettre, à disposition tous les moyens qu'on vous offre, des diffuseurs. Le diffuseur, je me suis entretenu avec, si on lui demande de passer la vidéo, il passe la vidéo. Si on lui demande de revenir sur une action, il passe la... Mais c'est le corps arbitral qui doit dire on veut cette séquence, on veut cette phase-là. Donc aujourd'hui, si on veut accepter l'erreur humaine, eh bien, on sort la vidéo.
Remarquez, certains diront que vous avez pris deux joueurs qui sont fidèles, mine de rien, à leur couleur, puisque que ce soit Belkoeffner qui déblaye Thomasset et qui finit 30 secondes plus tard dans l'un but, puis Juris Second qui accompagne l'attaque et qui finit derrière par transformer l'essai, tous les deux ont fait mal à l'aviron sur cette dernière action.
C'est pour ça qu'on les a pris, parce qu'ils ont des grandes valeurs.
Mine de rien, on regarde le classement. L'aviron bayonnais a perdu 2 points sur cette course à la 6e place. La dernière place qualificative pour les phases finales. Est-ce que c'est un retard définitif pour les ciels et blancs? Est-ce que le rêve d'une éventuelle qualification s'est envolé?
Non, mais déjà, je veux dire, personne n'a annoncé ou a dit qu'on allait se qualifier. Je veux dire, ça, c'est peut-être les médias, les supporters.
Vous étiez en course, en tout cas, au regard
oui,
des
oui,
points.
Mais je crois qu'à un moment...
Comme l'USA, par exemple, actuellement.
Il y a une réalité, je veux dire, sportive, qui est surtout, qui est souvent une équation économique. Aujourd'hui, on est à notre place. On n'est pas en retard. Il nous reste encore 3 matchs à domicile et 2 matchs à l'extérieur. L'année dernière, l'aviron finit 8e avec 58 points. On est encore, je veux dire, dans la possibilité de faire 58 ou plus, si on est capable d'aller chercher des points à l'extérieur et de gagner nos matchs à domicile. Donc c'est que le niveau augmente. Donc si le niveau augmente, il faut qu'on soit aussi sur l'année prochaine. On a un recrutement supérieur. Chaque année, comme je dis, on essaiera de gagner une place dans cette division. On a commencé fort l'année dernière, mais aujourd'hui, on n'est pas en retard par rapport à la saison dernière.
Vas-y Grégoire.
Ben disons que la différence qu'il y a par rapport à l'an dernier, c'est que l'an dernier, l'aviron a monté de Pro D2 avec un titre. On a été un peu la surprise de la saison passée. Cette année, l'aviron est un peu attendu partout. Alors c'est vrai que ça fait, il y a moins d'effets de surprise.
Moins d'effets de surprise, mais l'aviron s'est doté aussi d'un effectif plus quantitatif, plus qualitatif.
Oui,
aussi.
C'est sûr. Mais on voit tous les ans, le niveau augmente. Les budgets augmentent, le niveau rugbystique augmente. Il y a tout qui augmente. Alors, c'est vrai que c'est pas facile à mener tout ça de pair.
Philippe Taïeb, on va forcément vouloir sortir cette phrase et jusqu'au bout de la saison. Mais vous disiez en début d'année, il faut faire mieux que le top 8. Pour l'instant, on n'y est pas dans les clous. Ça veut dire quoi, qu'on se dirige vers un échec?
Non, je n'ai pas dit qu'il faut faire mieux que le top 8. J'ai dit qu'il faut gagner chaque année une place dans la division.
Vous avez fini 8e l'an dernier.
Voilà, donc j'ai toujours dit, on a peut-être commencé, on a commencé super fort, mais on est ambitieux. Et si je ne suis pas un président ambitieux, je l'ai déjà dit, je dois faire autre chose. Et aujourd'hui, mon message, il reste 7 matchs, on doit gagner 7 matchs. C'est comme ça, c'est la réalité. Si vous acceptez de perdre des matchs parce que vous êtes à la maison, à l'extérieur, ça sert à rien d'être président, mais c'est pas un discours qui va être pessimiste. Aujourd'hui, il faut être optimiste et il faut être ambitieux sans avoir de la prétention, mais on est obligé de véhiculer des messages positifs. Et bien entendu que, je le répète, l'année dernière, je crois que le barragiste est à 44 points. Eh bien, le barragiste, cette année, va finir à 50 ou 51 points. Eh bien, il faut aller chercher 51, 52 pour éviter ce barrage, mais on est dans une courbe qui va nous amener à 7 points de plus que l'année dernière au niveau du barragiste. Donc, c'est quand même, c'est pas le championnat grandi.
Allez, on continue avec Philippe Taïeb parce qu'il va falloir se projeter maintenant après avoir tourné la page de cette défaite au Stade Français. Il y a la réception de l'UBB. Il reste 5 matchs derrière au programme pour l'aviron bayonnais. Dans 100% rugby, on revient dans quelques secondes. 100% rugby de retour avec le président de l'aviron bayonnais, Philippe Taïeb, notre invité ce soir. On parlait de cette défaite au Stade Français 28-24, une défaite qui vous remet dans la difficulté, qui rajoute aussi de la pression sur ce prochain match, la réception de l'UBB ce samedi. Et Dieu sait qu'il n'y avait sans doute pas besoin de ça autour de cette rencontre, qui a déjà des petites allures de derby.
Pourquoi ? Peut-être que ça va être bénéfique pour nous, parce que peut-être si on avait gagné, on aurait eu peut-être une forme de relâchement aussi. Donc non, on reçoit une grande équipe de l'UBB. J'ai eu la chance de regarder hier soir le match. Voilà, c'est une équipe sérieuse qui prétend aujourd'hui au top 4 et avoir plus. Donc bien entendu que il va y avoir de la pression, mais il y a de la pression à tous les matchs parce qu'on veut être, on veut rester invaincu à Jean Daugé, parce que on veut chaque année gagner une place et puis. Un jour, c'est se frotter au meilleur, parce que c'est l'objectif de chaque joueur de haut niveau.
Je parlais de petites allures de derby, évidemment, par rapport au match aller, déjà, perdu d'un point, 24-23, au retour de Yannick Bru, évidemment, du côté de Jean Daugé, à la tête de l'UBB, puis il y a aussi la signature de Mathis Perchaud pour Bordeaux l'an prochain. On sait que tout ça a fait couler beaucoup d'encre, mine de rien.
Ben, Matisse a fait un choix. Je dis, il restera toujours bâillonné. C'est un choix sportif. C'est pas du tout. Je veux dire, il y a pas aujourd'hui d'amertume à avoir. C'est des choix qui appartiennent aux joueurs et que je comprends. Après, le derby, derby Bordeaux, oui, si vous voulez. C'est plus Pau aujourd'hui notre derby que Bordeaux. Mais non, il y a pas de. On va recevoir une grande équipe qui s'appelle les Galactiques, je crois, derrière. Donc c'est à nous d'essayer d'être bons et d'essayer de nous mettre à leur niveau parce que ils sont pas marrants, quoi, on va dire.
Une équipe de Bordeaux qui en plus a besoin de points pour entériner sa place dans le top 6. Effectivement, si je me fais un peu mauvaise langue, je dirais que d'aucuns diront qu'après la déculottée d'Anoeta, la victoire enlevée à Paris, manquerait plus qu'une victoire ou une défaite contre l'UBB de Yannick Bru à Jean Daugé. Et là, ce serait un printemps catastrophique pour l'aviron bayonnais.
Ouais, mais c'est pas la victoire de Yannick Bru. Je crois que c'est la victoire de l'UBB à Jean Daugé. Après, nous aussi, on est là pour gagner. On a besoin de points. Chaque équipe a besoin de points. Il va y avoir un match d'hommes, un match, je veux dire, virulent, c'est sûr. Après, ils ont des talents que peut-être qu'on n'a pas, mais on a des valeurs. On a aussi, je veux dire, des choses à revendiquer. On est chez nous. Mais ouais, je crois que ça fait partie d'une saison. Mais bien entendu que, aujourd'hui, c'est pas l'UBB qui veut venir gagner à Jean Daugé, c'est toutes les équipes. Donc, derrière l'UBB, il y aura encore Perpignan, il y aura encore Castres, on va au Racing, on va au Yonax. Il reste 7 matchs, à nous de faire le job, mais oui, l'UBB fait partie des grosses équipes, comme on a déjà joué, comme on aurait pu perdre, mais on a gagné. Bon, maintenant, on va voir samedi. J'espère que la frustration qu'on a de samedi dernier va nous servir, parce qu'on aurait pu avoir aussi une forme de décompression. Et là, ben, on est toujours sous tension et on aura les 7 matchs d'ici là, jusqu'à la fin de la saison, qui sont sous tension.
Grégoire.
Mais disons que le match qu'a effectué l'Aviron samedi à Paris a déjà remis certaines choses en place par rapport au match de
Anoeta
contre Toulon. Voilà, tout le monde attendait cette remise en cause. Les joueurs l'ont bien. Bon, le résultat, on le connaît.
Sur la première période, en tout cas.
Oui,
la deuxième, c'est sûr. La seconde est plus difficile.
24-7. C'est vrai que c'était important, c'était une différence importante. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Aviron a grandi. Toutes les équipes qui viennent à Bayonne respectent cette équipe de Bayonne parce qu'ils savent qu'ils seront. Il va falloir être prêt quand on se déplace, le public, une équipe transcendée par cette ambiance, tout ça. Et ils savent très bien que s'ils sont pas en place, s'ils sont pas prêts. Ça peut quand même faire cher. On l'a vu contre Montpellier. L'Aviron a fait un gros match. Je crois que quand on reçoit, les équipes nous portent beaucoup de respect. Alors c'est ça qu'il faut mettre en place. Et puis après, bon, c'est sûr que l'UBB est une grande équipe. Ils ont recruté comme il fallait. C'est sûr. Il faut avoir les moyens de recruter comme ils ont recruté. Ils se trompent pas au niveau du recrutement, mais bon, ils seront 15 et pareil pour l'Aviron. Voilà, ça va être un match à voir.
Philippe Taïeb dans 100% rugby sur France Bleu Pays Basque. L'opportunité de vous avoir, président, c'est aussi l'occasion de faire le tour de plusieurs questions autour de l'aviron. La refonte, le lifting, vous appelez ça comme vous voulez, de la tribune d'honneur, ça va se passer comment et ça aura quelles incidences concrètement?
Ben, logiquement, on risque, j'espère que si le calendrier se passe comme nous le souhaitons, c'est avoir des débuts de travaux fin de l'année 2024 avec, je veux dire, une partie opérationnelle juillet 2025, sur la saison 25-26 pleine. Et c'est un agrandissement sur les côtés pour avoir 1200 places de plus, déjà, parce que c'est quand même beaucoup de frustration. Hein. Je crois que ce week-end, on a dû refuser 5000 ou 6000 demandes, et de personnes, qui ont fait des demandes il y a 3 semaines, 1 mois. Voilà, c'est quand même, ça devient très lourd parce que, déjà, économiquement, on perd beaucoup d'argent.
J'allais dire, c'est beaucoup d'argent, mine de rien, qu'on laisse passer du côté de l'aviron bayonnais toutes les 2 semaines.
Ben ouais, si vous faites un stade comme on souhaite l'avoir, je veux dire, au final, et ça appartient aussi aux politiques, mais bon, on est aligné sur les sujets, c'est plus la temporalité qu'il faut bien voir. Mais aujourd'hui, l'aviron sera doté, j'espère, dans les 3-4 ans, d'un stade de 16 300, et c'est vrai qu'on aura une économie, on sera à maturité. Je crois qu'on est très jeune encore dans le projet. Il faut savoir que on a commencé le projet il y a 4 ans. Et aujourd'hui, on grandit, on avance. Notre économie nous permet de recruter, mais pas comme les grandes équipes. On est encore que la 12e masse salariale du top 14. Il faut quand même le rappeler. Donc, c'est vrai qu'on.
Le salarié cap va baisser aussi.
Non, le salarié cap va rester à 10,7 millions. Il devait passer à 10 millions, il a été voté à 10,7 millions. Donc, parce que justement, il y avait les grosses écuries qui n'arrivaient pas à descendre à 10 millions. Donc nous, on va devoir monter à 10,7 millions, mais on doit grandir, on doit continuer à grandir et on doit être ambitieux. C'est vrai qu'on a un conseil d'administration à mes côtés qui a aussi de l'ambition. Les gens veulent faire de ce club un club qui demain rentrera au moins dans le salary cap, ce qui nous permettra d'être dans les 8 ou 10, parce que aujourd'hui, l'Aviron, c'est la 12e masse salariale du top 14. Donc, si on finit pas dans les 8 premiers, ben, il y a quand même une équation aussi financière qu'il faut bien regarder et à un moment, ça vous rattrape.
On continue avec Philippe Taïeb dans quelques secondes, la dernière ligne droite de cette interview dans 100% rugby sur France Bleu Pays Basque.
18h-19h, 100% rugby. 100% rugby sur France Bleu Pays Basque avec Stéphane Garcia.
La dernière ligne droite avec Philippe Taïeb, le président de l'Aviron Bayonnais. On était en train de parler structure de Jean Daugé. Effectivement, ce lifting de la tribune honneur, 1200 places, c'est ça?
Ouais, on attend 1200 places. Ouais.
Pas d'incidence sur le reste et l'accueil des spectateurs, des supporters sur la saison, sur l'actuelle tribune honneur?
Pas du tout. Pas sur celle-là, sur la tribune nord. Oui, il y aura des incidences. Après, je veux dire, on est encore à la phase embryonnaire, je veux dire, du projet.
Oui, parce qu'on parle de la tribune nord. Combien c'est de supporters actuellement? Et ça voudrait, enfin, est-ce que vous savez déjà comment vous allez répartir cette masse-là de supporters sur le reste et sur l'ensemble de l'enceinte?
Impossible de vous le dire, mais c'est vrai que ça va poser un problème sur la saison, j'espère, 26-27 ou 27-28, parce que vous allez devoir faire une tribune, vous allez devoir raser une tribune et peut-être dire à des gens, mais pendant une demi-saison, l'accès à Jean Daugé n'est pas possible. Après, il faut accepter, je sais que c'est pas facile, mais il faut accepter aussi l'évolution du club et on peut pas demander, c'est ce que j'ai expliqué à certaines personnes qui m'avaient attaqué pour la délocalisation. Et aujourd'hui, on veut pas d'augmentation d'abonnement, on veut une grande équipe, on veut un grand stade, mais on veut pas, je veux dire, de ressources. Ça n'existe pas. Ça s'appelle les miracles. On en fait à Lourdes. Je suis de Lourdes, mais
j'allais dire, vous êtes un habitué.
Voilà, je suis habitué des miracles, mais bon, à un moment, c'est un coup de magie. Mais voilà, on a une économie réelle. On doit être fier de cette économie. Il faut qu'on arrive, je crois qu'on est dans la bonne voie et on est sur ce modèle qu'il faut avoir. Aujourd'hui, l'Aviron, si Philippe Taïeb n'est plus présent, une personne pourra prendre la suite et le club est sain, et on grandit, on construit, chaque euro compte et c'est vrai qu'à notre niveau maintenant, ben, avec le budget qu'on a réussi à construire, on doit continuer dans cette voie-là pour être stable et des grands clubs à côté de nous, ou des grands clubs, je veux dire, pas très loin de nous, qui nous servent de référence, ont mis 10 ans, 15 ans. Ben, nous, on est à 4 ans. Voilà. Donc, on a encore des belles années et on va continuer à travailler dur. Mais, je sais qu'un jour, l'Aviron touchera les sommets, j'en suis persuadé.
Est-ce que ça veut dire, je me projette peut-être un peu, mais que sur ces saisons-là, sans la tribune Nord, ou en période de réflexion de la tribune Nord, on pourrait envisager, pas une, mais deux, voire trois délocalisations du côté d'Anoeta ou ailleurs?
C'est pas exclu.
C'est pas exclu.
C'est pas exclu.
En tout cas, ça vous dérangerait pas. Enfin, vous avez déjà travaillé, vous aviez déjà travaillé pour potentiellement pouvoir revenir cette année, cette saison, ou pas du tout?
Pour la saison prochaine?
Pour la saison prochaine, peut-être même
oui,
dès cette
année.
Oui,
mais je reste persuadé. Aujourd'hui, notre économie ne peut pas se permettre de la non-délocalisation. Donc après, il y a des grands magiciens, s'ils veulent me faire le chèque qui correspond, je veux dire, à la délocalisation, il y a pas de souci. On arrête la délocalisation.
C'est combien?
Je peux pas vous le dire, mais c'est un chèque important. Après, s'il y a des volontaires, il n'y a pas de souci. Ils ont mon numéro de portable et ils me font le chèque. Et puis, j'accepte tout à fait d'arrêter la délocalisation. Mais pour l'instant, les dirigeants dirigent, le président préside, les joueurs jouent, les entraîneurs entraînent et les supporters supportent. Voilà. Et si on reste tous comme ça, on va vivre des belles années. Par contre, si chacun vient expliquer à l'autre ce qu'il doit faire, on va retomber dans les travers de l'Aviron et je serai pas le président de ces travers.
C'est du détail, mais certains diront que le diable se cache dans les détails. On parlait de la tribune honneur il y a quelques secondes. Les fameux fauteuils de la tribune honneur, où beaucoup se plaignent en étant tribune honneur, donc de payer plus cher que les autres, ce qui est factuellement vrai, mais de ne pas avoir la même qualité d'assise que ce qu'on peut trouver sur la Keolis et sur la tribune Europe Car.
Mais ils ont tout à fait, c'est tout à fait normal qu'ils se plaignent parce que effectivement l'assise ne correspond pas, je veux dire, au prix de l'abonnement, mais certaines personnes qui vont leur dire, écoutez, on peut vous mettre dans les assises d'Europcar. Ah non, on veut pas bouger. Et si vous ne bougez pas, on va devoir, si on met les mêmes assises, on va devoir, je veux dire, suspendre 400 places. Ah non, c'est pas bien parce que je pourrais pas être avec mes copains. Vous savez, on fera jamais d'unanimité. Ce qu'on essaie de faire, c'est de donner le maximum, le meilleur service. Donc, on étudie aujourd'hui un siège sur mesure qui puisse venir peut-être satisfaire tout le monde, mais voilà, il faut continuer à travailler, à bâtir et que les gens soient aussi dans la tolérance et se rappeler de l'aviron il y a quelques années et de l'aviron d'aujourd'hui.
Une question, on parle des tribunes, là aussi du détail, mais la tribune qui est au lisse, est-ce que le fait que le transporteur a perdu le marché sur les transports en commun sur l'agglo Pays Basque change quelque chose sur le naming de la tribune? Est-ce qu'il faut s'attendre à un changement de nom?
Oui, il va y avoir un changement de nom. Alors aujourd'hui, s'il y a des partenaires qui souhaitent le naming, il n'y a pas de problème, ils peuvent venir.
Personne ne s'est manifesté?
Mais pour l'instant, non.
Ah bon? Vraiment pas?
Non, pas du tout. Alors je ne sais pas, je ne suis pas au courant.
D'accord, non, il n'y a pas de souci. On est dans les questions pêle-mêle pour terminer, effectivement. Ça a beaucoup surpris, parce que c'est pas anodin, le choix, et on parlait de Joris Segan en première partie, mais de le faire signer 5 ans à l'aviron bayonnais, alors que les autres sont alignés sur les recrues jusqu'à 2026-2027. Pourquoi ce choix-là qui peut étonner? 5 ans, c'est long.
Vous savez, c'est aussi un joueur, pour moi, qui fait partie des meilleurs numéro 10 français, dont il y a des conditions financières qui ont été autour de la table. Et à un moment, quand vous voulez emporter quelque part le marché, ou quand vous voulez la venue du joueur, et que vous avez 4 clubs de top 4 ou top 2 qui sont positionnés, que le joueur vous dit « moi, je veux venir à Bayonne, mais il me manque ça », je crois que c'est une forme d'intelligence et puis une forme d'engagement. Et il faut juste la négociation. Quand vous faites des négociations, des fois, en une minute, vous perdez le dossier ou vous le gagnez. Il faut essayer d'être intelligent, rapide, et puis surtout de l'avoir signé au moment où on l'a signé. Ça nous a permis d'éviter d'autres sollicitations de clubs, et surtout que le garçon ait une saison pleine dans sa tête. Et il prouve tous les jours, et encore samedi, on a discuté après le match, et la motivation qu'il a de venir chez nous. Et je crois que c'est quand même déjà le recrutement de la saison 24-25 envoie un message fort. C'est pas garanti de résultat, mais on a recruté intelligemment avec des garçons qui sont aussi dans l'état d'esprit. Et je crois qu'il a prouvé encore samedi sur sa dernière transformation.
Nos confrères de Rugbyrama, c'est la dernière question, font état d'un intérêt du Racing pour Cléo Labarbe, le jeune demi-mêlée arrivé cet été du côté de Saint-Médard.
Oh, c'est plus qu'un intérêt. Je crois que Cléo a pris sa décision et
bon,
c'est des décisions, je veux dire, qui appartiennent, c'est des décisions sportives. Nous, on continue notre recrutement. Après, je veux dire, les décisions appartiennent aux joueurs par moment.
Il rejoindra le Racing l'année prochaine?
Ouais, faut lui demander. Mais il nous a juste annoncé qu'il restera pas à l'aviron bayonnais. Mais ce que je peux comprendre aussi, on continue. Et derrière lui, il y a d'autres joueurs aussi qui vont postuler. Et ça fait partie de la vie d'un groupe et de la vie d'un club.
Merci Philippe Taïeb d'avoir été avec nous dans 100% rugby ce soir.
Merci beaucoup.
Et bonne soirée, l'aviron bayonnais qui recevra donc l'UBB ce samedi 17h, 22e journée de top 14 qu'on vivra en intégralité sur France Bleu Pays Basque. On revient avec une grosse page du Biarritz Olympique.
100% rugby, les infos du jour.
Grégoire Lascubé en duo avec Étienne Dao, c'était deux styles différents effectivement. Les infos du jour, vous réagissez pas en studio, c'est comme vous le sentez. Grégoire Lascubé qui est là, et Eric Balader qui est arrivé, l'heure d'été, c'est bien passé, le petit heure de décalage. Salut Eric.
Bonsoir à tous.
Rapidement, toi la défaite de l'aviron, tu l'incombes aux joueurs?
Quand tu perds, d'abord c'est les joueurs. Après, oui, bon, voilà. Quand tu gagnes si largement à une mi-temps, tu te dois de respecter, on va dire, certaines choses. Et le Money Time, ils y sont. Le match, il est gagné. C'est la première fois à l'extérieur qu'on a un match gagné. Après, à 9 secondes, tu perds le match. Voilà, pour ce que vous avez expliqué tout à l'heure.
Voilà pour l'aviron bayonnais. On passe donc au Biarritz Olympique, et France Bleu Pays Basque prend le temps de vous raconter les derniers éléments de la session du BOPB. La date de l'Assemblée Générale Extraordinaire et des actionnaires du Biarritz Olympique se tiendra le lundi 6 mai. Les convocations sont parties vendredi dernier. 88 actionnaires du club appelés à se rassembler pour valider la passation de pouvoir entre le clan Gavaldigé, le trio Marc Bagé, Flip Van Der Merwe et Sean Egarty. France Bleu Pays Basque a pu contacter des proches de la nouvelle direction du Biarritz Olympique et qui explique travailler encore sur de nouveaux investisseurs qui vont venir gonfler le pool. Des petits et de moyens porteurs, pas de gros porteurs aux millions comme on peut penser du côté de certains. Silence Radio jusqu'à cette date du 6. L'idée pour le trio de repreneurs, c'est d'éviter tout escandre, notamment avec Jean-Baptiste Aldigé qui va laisser la main après le match à Agen ce jeudi. Le déplacement à Armandie, d'où il est originaire, il faut le rappeler, on le sait, ce match sera capital dans la course au maintien. Je parlais de petits et de moyens porteurs. Le nom de Romain Détré a été évoqué, lui qui a failli reprendre le club, on s'en souvient l'été dernier, pour 3 millions, 3,5 millions. Finalement, la vente avait été avortée. Est-ce que c'est ce nom que les nouveaux repreneurs n'ont pas envie de rendre public au risque de crisper Jean-Baptiste Aldigé? Peut-être la raison de leur silence sur ce soutien financier. Réponse des proches de la nouvelle direction. Que ce soit Romain Détré ou un autre ancien investisseur proche du BO, ce qui compte, c'est que le propriétaire est majoritaire, celui qui va prendre les décisions finales, celui qui a 77% des 166 millions de parts du club, c'est la société Biotiful, Degarty, Van Der Merwe et Marc Bagé, pas Détré. Détré, lui, serait une goutte d'eau, certes plus ou moins grosse en fonction des investisseurs, mais une goutte d'eau quand même dans un océan d'investisseurs nationaux et internationaux. Ses proches assurent avoir suffisamment de liquidités pour terminer la saison. Ça coûtera 1,5 million d'euros. Et derrière, stabiliser le club, ça veut dire 3 millions supplémentaires par an minimum pour trouver un équilibre. Fini la philanthropie du côté du Biarritz Olympique. C'est en substance le message que veut faire passer le trio de repreneurs. Et derrière, on tentera de valoriser le club pour que les investisseurs se retrouvent avec trois pistons. Le côté sportif, le stade, et puis il y a l'aménagement d'Aguilera, le commercial aussi, le réseau qui peut tourner autour pour les entreprises. Toujours est-il que le pool d'investisseurs se tient prêt, qu'une fois la passation officialisée après le 6 mai, le projet sera proposé au reste des actionnaires. Un nouveau chapitre qui se fera en plus sans Nicolas Brusque, écarté par la nouvelle équipe dirigeante, qui ne veut pas de l'ancien arrière et président du club dans le futur conseil de surveillance. En réponse, tous les administrateurs de l'actuelle équipe, je pense notamment à Laurent Mainduri, Serge Lagaronne ou Jacques Etchalus, ont décidé de décliner l'invitation de rejoindre Egarty, Van Der Merwe et Marc Bagé à la tête du club. Voilà pour les infos de France Bleu Pays Basque ce soir du côté du Biarritz Olympique. Ça fait beaucoup de choses, mais c'était nécessaire de faire le point sur la vente et le processus de cession du club. Grégoire Lascubé.
Mais disons que oui, comme tu dis, ça fait beaucoup de changements en très peu de temps. Mais ces changements étaient en même temps attendus parce que le Biarritz Olympique ne pouvait pas continuer avec cet état actuel des choses. Après, que les emblématiques, parce que je les appelle, à un moment il y avait les galactiques, moi je les appelle les emblématiques, les partenaires qu'il y avait.
Mendurine, la Garonne.
Bon, Laurent, je le connais bien, c'est vrai que ça fait 40 ans qu'il est derrière le Biarritz Olympique, avec toute l'évolution qu'a eu ce club, ces moments forts, où il était toujours là, dans les grands moments, dans les mauvais moments, et c'est sûr que ça me fait un peu mal que ces personnes-là aient arrêté pour des raisons qui les regardent. Mais c'est le Biarritz Olympique continuera.
Voilà.
Moi, ce que je comprends, c'est que aujourd'hui, on avait quelqu'un qui était capable de mettre 3 millions et un peu plus tous les ans pour faire en sorte que son club soit compétitif en Pro D2. Il n'a pas eu droit de construire un stade et maintenant, il est plus là, on en met un autre qui a peut-être, mais c'est pas sûr, qu'il ait la possibilité de remettre 3 millions tous les ans et à lui, on va lui construire un stade. Voilà, donc le truc, c'est le même problème.
Aucune garantie n'a été apportée pour l'instant par la mairie.
Je pense qu'il va falloir qu'il lui construise un stade, parce que sinon il ne va pas rester longtemps non plus. Parce que sans stade, il va mettre 3 millions un an, 3 millions deux ans, 3 millions trois ans.
Ouais, on parle de 3 ans effectivement pour trouver un équilibre, et derrière il va falloir que ça devienne
Et après, mais sans le stade, il va dire « désolé, mais ce n'est pas viable ».
C'est une manière de mettre la pression sur le pouvoir public.
Donc quel était l'intérêt d'aller sortir moi, je m'en fiche qu'il soit Hong Kong. Là, aujourd'hui, on a mis des gens qui sont prêtenants, on va dire, qui sont du coin.
La figure de Sean Egarty peut-être avec un peu plus rassembleuse, peut-être qu'il avait besoin d'un nouveau souffle, peut-être aussi que Jean-Baptiste Aldigé avait besoin d'aller voir ailleurs.
D'où vient l'argent? On s'en fout. Dans une entreprise privée, les actionnaires.
On parlait de Romain Détré, justement, d'où vient ce que je veux dire quand tu dis d'où vient l'argent. Est-ce que ça compte d'où vient l'argent ou est-ce que l'argent il peut venir de n'importe où et on s'en fout?
À l'arrivée, quand t'es à la fin de l'année, en avril ou en mai, quand tu lèves le bouclier, tu t'en fous un peu de savoir. Quand les biarros ils battent les baïonnets sur l'Access Match, d'où vient l'argent, personne s'y intéresse. Ce qu'ils savent, c'est qu'ils vont être en top 14. Donc aujourd'hui, la roue elle tourne, mais moi, ce que je vois, c'est que ça avance pas.
Va avancer après le 6, c'est ce qui est promis.
Et comme par hasard, comme ça avance pas, les résultats...
Voilà. Les transitions parfaites, on dirait un animateur de radio, puisqu'après avoir parlé du terrain du côté du Biarritz Olympique, on évoque à présent, après avoir parlé des coulisses, on évoque à présent le terrain. Avec une défaite donc effectivement pour ce Biarritz Olympique là, battu à Aguilera à domicile, sévèrement corrigé par Grenoble 46-19. Biarritz finalement devra batailler jusqu'au bout pour se sauver en Pro D2, Grégoire.
Oui, c'est sûr. Vendredi j'étais à Aguilera à côté de Thomas et c'est vrai que on a assisté à un match compliqué, très compliqué, où les Biarros ne sont pas rentrés. En première mi-temps sur le terrain, en 29-0, c'est surtout la physionomie, le contenu qui était compliqué. Voir les gens, les supporters qui quittent Aguilera à la 35e minute. Bon, je vous avoue que ça fait mal au cœur. Mais après il y a eu un retour de deuxième mi-temps. C'était sûr qu'ils allaient réagir, mais quand Grenoble s'est senti en danger au niveau du point de bonus offensif, bon, ça a été c'était quelque chose de dur. Voilà. 50 points à la maison, mais ouais. Voilà, c'est pas évident.
Deux soucis pour moi. En effet, les Biarros ne jouent pas un match à la vie, à la mort. Il n'y a pas de combat. Au bout de la première action, ils prennent un essai avec un surnombre. Je crois qu'il y a 5 Grenoblois dans l'embut, il n'y a plus un Biarros. Première zone de ruck, pas un contest, pas un gars qui vient cabosser. Donc, je me suis dit, ça va être très très long.
Il a fallu attendre les entrées de Johnny Dyer et de Nafi Mafou pour gagner des collisions et te mettre dans l'avancée.
Et le deuxième souci pour moi, qui suis petit du rugby amateur, quand ton manager, c'est-à-dire l'étendard, le porte-drapeau du club et du projet pour sauver tout le monde, mais annonce qu'il n'est plus là et qu'il s'en va entraîner une autre équipe,
en l'occurrence le Portugal,
parce que l'annonce a été faite la semaine, 2 jours, 3 jours avant le match le plus important de l'année pour son club. Moi, bon, je sais pas, ils ont pas des mecs qui payent là pour faire de la com.
Après, parce que Simon Mannix l'a dit en conférence de presse, il dit est-ce que j'ai ma part de responsabilité là-dedans? Est-ce qu'il y a la part de responsabilité de la réunion aussi entre les joueurs?
Il fallait qu'ils s'en rendent compte.
Et les nouveaux repreneurs le mardi du côté de chez Sosso. Pour le coup, ça fait beaucoup de questions. Lui dit en tout cas que c'était indépendant de sa volonté, l'annonce officielle de son changement du côté du Portugal.
Bon, moi, s'il me donne 3 billets, je vais le conseiller. Je vais lui dire tu fermes ta bouche et t'attends là, qu'on gagne le match et après tu le dis, mais là c'est pas possible de faire ça quand
après
même.
Tu sais qu'il est pompier de service, il est pas là pour,
oui,
rester.
Oui, mais c'est lui qui dit de temps en temps on va y arriver machin, avec son franglais que personne comprend, mais lui il y est dans le projet quand même.
Oui, mais Eric, quand tu vois la physionomie du match, l'entame du match, c'est quand même les joueurs qui sont passés complètement à côté. Il n'y a pas que le fait d'annonce de Mannix, et quand il dit qu'il part au Portugal, bon, ils le savent, mais au compte, ils sont quand même la réaction.
Même si c'est du rugby pro, même si il y a des choses quand même.
Ils ont été inexistants, ils ont été absents, tu le dis toi-même, il y avait surnoms, on aurait dit que les Clermontois étaient 5 de plus. Non, à un moment, tu joues avec la Grinta et le Biarritz Olympique n'en a pas eu.
Dans tous les cas, le Biarritz Olympique, je suis obligé de vous couper parce qu'on arrive à la fin, ça passe vite, 1 heure évidemment, surtout plus quand c'est l'heure d'été.
En retard.
Désolé, tu te rattraperas la semaine prochaine. Match de la peur en tout cas, au match de la vérité, on verra ce que ont dans le ventre les joueurs du Biarritz Olympique, ce sera jeudi du côté d'Agen, 28e journée de Pro D2, un match à vivre en intégralité sur France Bleu Pays Basque. On se retrouve demain pour 100% rugby avec Yann Blanchard et Chichi Lifoy. Bonne soirée.